Proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Ce son, comme vous l'entendez grâce au générique qui court encore, c'est le proton qui se rebiffe. Et ce soir, nous allons discuter, comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, d'un de mon livre à moi, qui s'appelle « Comprendre nos choix avec la psychologie de la motivation » de Paul Diehl. Et ben, moi, l'auteur, c'est Jean-Manuel Trémon. Et je me suis dit que pour en discuter, eh bien, il fallait que j'en discute avec un vieil ami à moi que je laisse se présenter lui-même.
Bonsoir, moi c'est François Graner. Alors pourquoi est-ce que je suis là? Parce que je suis fils d'une psychologue qui s'appelle Marie-Jo Graner et qui a été élève de Paul Diehl, le psychologue dont nous allons parler ce soir. Et donc moi j'ai baigné un petit peu dans ce milieu-là pendant toute mon enfance. Ça n'a rien à voir avec mon travail. Je suis devenu chercheur scientifique en physique, donc rien à voir avec la psychologie. Mais j'ai toujours été intéressé par ça. Et quand j'ai croisé la route de Jean-Manuel Trémon et qu'on a commencé à en parler, il en est sorti des choses.
Voilà, c'était ma vieille habitude de vouloir faire comprendre ce qui est parfois difficile à comprendre. Et il y a quelque chose qui m'a toujours un petit peu désespéré avec cette psychologie de la motivation, c'est que les textes qui la fondent ont été écrits par quelqu'un qui était autrichien de naissance, même si sa maman était répétitrice de français, même s'il a vécu la plus grande partie de sa vie en France, donc il parlait un français absolument excellent. Il a quand même continué à penser comme un autrichien, plus exactement comme un germanophone, tout simplement. Alors quand on pense comme un germanophone, mais qu'on écrit comme un français, ça donne des difficultés. Et l'une des difficultés, ça a été en particulier le choix du vocabulaire. Et cette théorie de la psychologie de la motivation a été exposée avec un vocabulaire qui est parfois déroutant. Et donc, l'un des buts du livre que j'ai écrit, avec l'aide de... entre autres, la famille Graner, ça a été de rendre le vocabulaire de toute cette théorie extrêmement simple, parce que finalement, la théorie elle-même, elle est simple à comprendre, elle est simple à utiliser, elle est simple à expliquer, et donc il fallait vraiment qu'il y ait un livre qui permette d'y accéder facilement.
Juste, tu peux nous dire comment toi tu as connu Diehl, parce que moi je l'ai connu donc tout petit. Mais
je l'ai connu comme 98% des gens qui le découvrent, parce que dans la petite bibliothèque Payot, il y a un livre qui s'appelle « Symbolisme de la mythologie grecque ». Alors la mythologie grecque, ça séduit tout le monde, et évidemment, vient un jour, on se dit « mais cette mythologie, fatalement, il y a bien des choses derrière ». Et donc on veut comprendre, alors on se dit « symbolisme de la mythologie grecque », et puis il y a le prestige de la petite collection, la petite bibliothèque Payot. Donc on achète ça, et on tombe sur un livre qui, bien entendu, vous parle de la mythologie grecque, mais qui en réalité expose brillamment cette psychologie de la motivation. Alors moi, quand je l'avais lu, je suis resté avec, et puis je n'avais personne avec qui en discuter. Et puis un peu plus tard, ayant découvert que ma mère, qui elle aussi était psychologue, avait plusieurs livres de Diehl dans ses bibliothèques, j'ai lu plusieurs des autres livres de Diehl, et je me suis dit, mais voilà quelque chose qui va me servir. Et à nouveau, quand ma route a croisé celle de François, nous avons découvert que nous étions tous les deux fort intéressés par cette théorie, que jusqu'à un certain point, nous tentions de la mettre en pratique dans nos vies, et il en est donc sorti cette idée de ce livre pour permettre de la présenter.
Alors, j'aurais envie de dire que Diehl, ça recouvre à la fois une théorie psychologique, une vision, on va dire, philosophique, et puis une méthode pratique. Et ça serait peut-être bien qu'on discute un peu des trois, si on a le temps, dans l'heure qui vient. Et donc, est-ce que tu veux essayer de faire le travail redoutable, d'essayer de présenter la théorie de façon générale, alors, ou pas? Et si tu veux, on peut le faire à deux.
Alors, écoute, je vais essayer de commencer à la présenter, et puis il est vraisemblable que tu veux dire « Ah oui, mais attends !» Et on va voir ce que ça va donner. Alors, Diehl, le grand avantage de cette théorie, c'est d'abord qu'il part de quelque chose d'absolument incontestable. Il parle de quelque chose de très simple. Il dit, voilà, nous les êtres humains, nous sommes en permanence des gens qui recevons des perceptions, des stimuli. Et puis ces stimuli, il faut bien que nous les interprétions. Et pour les interpréter, pour faire du sens à partir de ces perceptions, eh bien, nous sommes obligés d'utiliser une faculté extraordinairement pratique qui est l'imagination. Je m'explique. Un exemple que je donne dans le livre, une masse orange et noire s'approche de nous à grande vitesse. Alors, si nous sommes complètement idiots, nous ne savons pas ce que c'est. Puis si nous ne sommes pas complètement idiots, eh bien, nous réussissons à l'interpréter comme un tigre qui va nous attaquer. Vous allez me dire, mais l'imagination, là, elle vient où? Elle vient en ceci que, une fois que nous avons l'interprétation de la réalité, cette réalité, elle colle ou non avec nos désirs et nos besoins. Alors, par exemple, si un tigre nous attaque, nous comprenons que nous avons seulement intérêt à satisfaire notre besoin de sécurité. Et là, à ce moment-là, l'imagination nous pousse à nous demander « Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a un tigre qui m'attaque. Est-ce que j'imagine que j'ai un fusil, que je tue le tigre ? Est-ce que j'imagine que je cours très vite ? Est-ce que j'imagine que je m'arrête devant le tigre et je crie pour essayer de lui faire peur ?» Nous utilisons donc l'imagination de manière constante. Seulement, voilà. Cette imagination, elle a une caractéristique étonnante. Elle peut parfois nous procurer une satisfaction illusoire. Je m'explique. Supposons qu'au lieu que le tigre soit dans la réalité, il est vu à la télévision. Eh bien, je peux commencer à imaginer que je suis tellement fort que d'un coup de poing, j'écrase le tigre. Ou au contraire, que je suis tellement fascinant qu'avec un sourire, je désarme le tigre et qu'il vient faire ronron à côté de moi. Et le problème de ces satisfactions illusoires, de cette imagination, c'est qu'à la fois, c'est la clé qui a permis aux êtres humains de sortir de l'animalité et de créer absolument tout ce qu'ils ont créé. Mais en même temps, la satisfaction illusoire, elle peut nous emmener dans des erreurs, dans les erreurs du choix de nos actions, dans les erreurs du choix du mode de notre vie, dans les erreurs du choix des buts de notre vie. Et c'est une théorie qui donc essaye de nous donner à chacun de nous les outils personnels, individuels d'abord, pour comprendre quelles sont les erreurs qu'éventuellement nous commettons à cause de cette satisfaction illusoire. Mais attention, là je viens de parler de, nous sommes d'accord, 10% ou 15% de ce qu'est cette théorie. François, qu'ajouterais-tu ?
Alors, on demande souvent comment il se situe par rapport à ses prédécesseurs, les Freud, les Adler, les Jung, dont il est un peu le successeur. C'est un psychologue, on va dire, un peu de la même période, la même école, un petit peu postérieure. Alors, je dirais qu'il les englobe. C'est-à-dire qu'il part évidemment du fait qu'une partie de notre fonctionnement est inconscient et qu'il n'y en a qu'une partie qui est consciente. Il part du fait que nos désirs sexuels font partie effectivement de ce qui nous motive, mais nos motivations, tout ce qui nous la psychologie de la motivation, c'est la psychologie de ce qui nous motive, de nos différents motifs, et ils sont en fait très variés. Et les motifs sexuels ne font qu'une partie. Tu as parlé du motif de sécurité, des besoins de nourriture matérielle, de différents besoins aussi qui peuvent être d'ordre beaucoup moins matériel. On a beaucoup de besoins et de désirs différents qui se diversifient au fur et à mesure que l'être humain évolue. Et donc, voilà, c'est l'ensemble de ces désirs que Diehl essaie de prendre en compte et de montrer comment ils s'équilibrent en nous quand on prend des décisions. avec évidemment une grande partie qui est inconsciente. Mais inconscient ne veut pas dire nécessairement uniquement des choses qui vont être insatisfaisantes, frustrantes, qui vont nous, on va dire, nous tirer vers le bas au sens symbolique. Et il y a aussi, on a aussi dans notre fonctionnement inconscient des choses où, qui nous permettent de nous guider de façon un peu instinctive, un peu, mais dans un but, vers un but satisfaisant. Et en fait, l'ensemble de notre fonctionnement, conscient et inconscient, n'arrête pas de faire, de délibérer, de faire des calculs, c'est-à-dire face à une décision qu'on a à prendre en permanence, toute la journée, on est à se demander qu'est-ce que je vais faire, on se le demande plus ou moins inconsciemment, plus ou moins consciemment, en faisant intervenir toute une série, non seulement de désirs, mais aussi de valeurs qu'on leur accorde. Et donc à chacun des désirs, nous accordons une certaine valeur, et c'est les désirs qui ont le plus de valeur, qui vont finalement emporter la décision.
Alors, il est important là de comprendre quelque chose, justement. Tu parles de manière tout à fait juste des prédécesseurs de Diehl. On peut aussi parler des gens qui lui sont contemporains et des gens qui sont venus après. Un grand problème avec énormément de théories psychologiques qui sont souvent extrêmement intéressantes, c'est qu'elles se focalise sur un bidule. Alors, par exemple, de manière notoire, Freud a donné une énorme importance au désir sexuel. Adler a la conception qu'on a de l'image de soi, par exemple. Jung a tout un tas d'autres choses, etc. L'un des grands avantages de la théorie de la psychologie de la motivation, c'est que c'est une théorie de l'équilibre. C'est-à-dire que pour chaque personne, à chaque moment, dans chaque contexte, eh bien, ce calcul de satisfaction dont tu parles, il va faire appel à des facteurs, à des valeurs à chaque fois différentes. Parce que la vie change constamment, nos attitudes changent constamment, notre savoir change constamment. Et donc, par conséquent, au lieu d'être obsédé par « je veux faire l'amour avec ma maman et je veux étrangler mon papa » ou bien « je veux être le chef et je veux que tous m'obéissent », eh bien, en réalité, Diehl s'est tout simplement rendu compte de l'évidence que, effectivement, presque à chaque seconde, nous effectuons des calculs de satisfaction. Et que ces calculs de satisfaction, eh bien, se font avec des différentes choses qui pèsent, des poids différents, inconscients, semi-conscients, conscients, des illusions, des illusions qui sont quand même vaguement basées sur la réalité ou pas du tout. Et donc, c'est une manière, et là, il y a également quelque chose qui va différer, alors là, profondément en particulier de Freud, c'est que Diehl a dit, il est possible de se lancer dans l'introspection. Pour Freud, l'introspection était quasiment impossible, en tout cas c'est ce qu'il a dit, qu'il fallait absolument, selon Freud, qu'il fallait passer par l'intermédiaire d'un, bon allez d'une, il a mis longtemps, enfin bon bref, d'une thérapeute. Et alors que dans la psychologie de la motivation, c'est très bien de passer par un ou une thérapeute, mais c'est d'abord une théorie de l'introspection.
Que je peux peut-être essayer de définir, hein, l'introspection, c'est comment s'examiner soi-même le plus lucidement possible et rendre conscient ce qui est dans notre inconscient. Alors, de façon jamais parfaite, hein, cette introspection n'est jamais parfaite, elle est difficile à valider, à vérifier, sauf par la satisfaction qu'elle procure, en fait. Elle peut se faire régulièrement, hein, on peut en faire un peu toutes les semaines, un peu en permanence, mais c'est surtout ce qui est important, c'est qu'elle donne une énorme responsabilité individuelle. Elle donne une liberté de l'individu, qui a la liberté de choix à tout moment, en s'examinant soi-même. C'est-à-dire que, à tout moment, nous-mêmes, d'abord, on change en permanence et puis on dépend de tout notre passé. Évidemment, on dépend de tout notre passé, de tous les accidents qui nous sont arrivés, de l'influence qu'on a eue de nos parents, de nos proches, etc. Mais moi, à un moment donné, je suis moi-même et je peux m'introspecter et regarder en moi-même ce qu'il en est, qu'est-ce que j'ai comme conséquence de mon passé. Et au lieu d'incriminer mon passé en permanence et de le ressasser, si les événements négatifs en permanence, j'ai ma liberté de choix de me comporter moi-même comme je veux en fonction des éléments que j'ai aujourd'hui, de ce qui aujourd'hui est inchangeable, et dans ce qui est inchangeable, il y a évidemment mon passé, il y a évidemment les comportements de mes proches sur lesquels je ne peux pas agir, il y a le contexte social, politique, etc. Il y a l'argent que j'ai, ce que j'ai dans la réalité, il y a les lois de la physique, il y a tout. Tout ça, il y a plein de choses inchangeables, et puis il y a tout ce qui est changeable de mon point de vue, c'est-à-dire moi-même, mon comportement, mes actions, mes manières de prendre les choses positivement ou négativement. Ça, c'est ma responsabilité individuelle. Et donc, au milieu d'un monde inchangeable, globalement, et dans lequel mon passé fait partie des conditions inchangeables, moi, j'ai la liberté de me comporter comme je veux, et l'introspection m'aide pour ça à prendre mes décisions de façon la plus lucide possible. Et alors évidemment, c'est une théorie de l'équilibre, Mais une théorie d'équilibre dynamique qui change tout le temps parce que les conditions changent en permanence. Et il n'y a pas une. C'est une méthode et non pas un programme à suivre à la lettre.
C'est extrêmement important. Méthode et pas programme. Christiane, tu voulais dire quelque chose?
Oui, je voulais savoir dans votre propos par rapport à l'introspection, je voulais en quoi intervient par exemple des drogues qui permettent aussi une sorte d'introspection. Est-ce que c'est pris en compte? Et quand tu dis par exemple, on a la liberté de voir et de juger, etc. Moi, j'ai du mal à imaginer dans les conditions où il y a quand même le déterminisme social, etc., etc. J'ai du mal à voir exactement comment on peut avoir une liberté de dire, si on s'arrête et on dit ça y est, maintenant je vais me mettre à une introspection, ou alors avec la drogue, peut-être, je sais pas.
Alors, sur la question de la drogue, il y a beaucoup de... C'est vrai que dans des situations éventuellement coincées, le rêve, par exemple, permet éventuellement, quand on a une méthode un peu de traduction des rêves, permet d'accéder à un fonctionnement inconscient qui, normalement, est un peu occulté dans la journée. Et donc, peut-être que certaines drogues peuvent éventuellement aider à ce genre de choses, mais c'est, pour moi, ce n'est pas nécessaire parce que, en tout cas, dans la plupart du temps, l'introspection peut... Juste de laisser flotter les choses par un peu de calme, laisser les choses remonter à la surface et flotter. Et quand elles approchent de l'inconscient, les approfondir, tirer la pelote qui se présente et creuser un petit peu. Dès qu'on a une petite insatisfaction, une petite frustration, essayer de comprendre d'où elle vient. Eh bien, tout ça, ça nous donne des poignées pour tirer vers l'introspection. Et quand je parle bien de responsabilité individuelle, à l'intérieur de ce qui est inchangeable. Le déterminisme social, c'est comme j'ai dit, hein, le contexte social, politique, fait partie des choses, de même que le comportement des personnes autour de moi, de mes proches, de mes supérieurs hiérarchiques, de mes subordonnés, de tout ce qui m'entoure, et mon passé aussi, tout ça, évidemment. Je ne peux pas le changer, mon passé. Mais dans ce cadre-là, moi, je découpe un cadre dans lequel je peux agir, et ma liberté, elle est là. Elle est fondamentalement là. Et en tout cas, ça me donne une responsabilité individuelle d'accepter ou de ne pas accepter, d'agir ou de ne pas agir face à la situation où je suis.
Donc, il est
bien de changer ce qui est changeable et quand c'est souhaitable de le changer, quand on accorde une valeur au fait de le changer. Donc, il faut avoir un système de valeurs pour dire qu'est-ce qui va être satisfaisant ou pas. Et puis, le reste, ce qui n'est pas changeable, l'acceptation.
Alors, on viendra un peu plus tard à tout l'aspect social et de l'action, alors sociale, collective, politique, que cette psychologie peut considérablement aider. Pour en revenir simplement au truc de la drogue, là, je parlerai juste de mon expérience personnelle. Moi, j'ai fumé du shit avec Allégresse entre 16 et 19 ans. J'ai eu une intuition psychologique pendant que j'étais défoncé comme un malade. Est-ce qu'elle est venue grâce au shit? Je ne suis pas très sûr. Je pense que les drogues et leur usage, évidemment, ça dépend, de la drogue. Ensuite, ça dépend des personnes. Et personnellement, je pense que si on utilise la drogue à des fins d'introspection, il est hautement recommandé de le faire avec des gens très expérimentés, de préférence des pros, mais pas nécessairement, mais en tout cas des gens très très expérimentés qui ont déjà utilisé ça. En tout cas, une chose est sûre...
Excuse-moi Jean-Manuel, je te coupe. C'est pas du tout le shit, ça c'est de la rigolade, ça c'est.
Non mais la psilocybine, le LSD, les ceci, les cela.
Il y a quand même eu, si tu veux, des personnes qui étaient des pros, comme tu dis, qui ont utilisé ça à un certain moment justement pour que des personnes puissent ouvrir des.
Alors je dirais que si tu veux cette technique-là, la technique de la psychologie.
Je suis pas en train de faire
l'apologie des.
Non. Et si je peux intervenir, justement, je pense que l'intérêt de la méthode de Diehl est justement d'avoir, puisque là, si on passe plutôt maintenant au côté pratique qu'au côté théorique, c'est justement de donner des fils et des méthodes pour ne pas avoir besoin de recours extérieurs, de recours artificiels pour débloquer. Parce que l'intérêt d'une drogue ou d'autre chose, c'est de débloquer un peu une situation coincée, on va dire. Et là, c'est d'avoir une méthode qui permet...
D'accord, mais si tu prends par exemple le cas du LSD, c'est quelque chose qui va changer le flux du sang dans ton cerveau. Mmh. Donc c'est bien au-delà du fait que tu es coincé ou pas coincé, ça va provoquer des sensations auditives, visuelles, etc., etc., des cinq sens, qui vont changer les choses et qui peuvent être dangereuses, effectivement, oui. ou peuvent en tout cas ébranler la personne oui. Et son équilibre, en tout cas sa vision et sa perspective habituelle.
Mais voilà. L'introspection, le but c'est justement de lever au conscient des choses qui sont inconscientes et de le rendre lucide et de rendre justement très tard par le conscient de façon sereine, optimiste et en justement la mettant en lumière. C'est donc tout l'opposé, déjà, à mon avis, de la démarche dont tu viens de parler. Une des choses, par exemple, que l'introspection permet, c'est de trouver un équilibre dynamique, hein, c'est jamais un équilibre parfait, mais entre des extrêmes dans lesquels on tombe facilement. Et donc, justement, quand on tombe sous l'effet d'une frustration, sous l'effet de difficultés extérieures ou intérieures, on tombe souvent, et en particulier dans quatre aspects de l'analyse, on peut se surestimer soi-même, c'est-à-dire devenir très vaniteux, ou se sous-estimer soi-même, c'est-à-dire de se trouver nul. On peut surestimer les autres, c'est-à-dire trouver que les autres sont géniaux ou sont adorables et qu'il faut tout faire pour eux, ou au contraire dévaloriser les autres, trouver que c'est tous des idiots. Et on a ce que Dial identifie, c'est que souvent quand on tombe dans un excès, quand on en revient, on tombe dans l'excès inverse. C'est à force de se surestimer, quand on voit que ça marche pas, on en vient à se sous-estimer, ou l'inverse. Si je suis pas génial, je suis nul. Si je suis pas nul, je suis génial. Et donc, de même, si moi je suis génial, les autres sont nuls, etc. On passe en permanence sur des extrêmes de sur et de sous-estime de soi et des autres. Et donc, arriver à trouver, à mettre un curseur un petit peu pour se juger à sa juste valeur, juger les autres à leur juste valeur, et avec un point intermédiaire, et juger que personne n'est parfait, mais personne n'est complètement nul. Eh bien, ça, c'est un des outils technique qui permet, face à cette situation difficile de la vie quotidienne, de se remettre un peu les pieds sur terre, de se reposer, de retrouver de la sérénité et de repartir d'un bon pied.
Voilà. Et je voudrais surtout ajouter ceci. C'est une psychologie simple. C'est pas vraiment une psychologie pour psychose aiguë, etc. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment une psychologie de la vie quotidienne pour les gens. Je ne veux évidemment pas utiliser le mot « normaux » parce que c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais ce n'est pas une psychologie pour asile psychiatrique. Ce n'est pas pour une psychologie pour des gens qui commencent à perdre complètement le contact avec la réalité. C'est une psychologie pour nos vies quotidiennes, nos vies politiques aussi, nos vies sociales, nos vies collectives. C'est à la fois simple et efficace. Ça essaye surtout de ne pas être trop compliqué. Alors, ça peut éventuellement, parce que nos psychologies, nos psychés peuvent être compliquées, donc ça peut aller jusqu'à un certain point de complexité, mais en général, on part de choses qui sont relativement simples et on utilise des outils qui sont eux-mêmes relativement simples.
Quand je prends la dernière rame, je suis tout comme le naufragé. Mes poumons, ils sont en panne, ils ont besoin de s'aérer. Je rêve de blanches baleines, d'ambre gris dans la mousson. Pourtant, je cours à perdre haleine avant que ferme le portillon. Le métro, c'est mon cachalot, qu'aurait pas connu les flots. Heureux les navires qui voient l'horizon autour d'eux en rond. C'est à ça que j'aspire. J'aime pas le téléphone, y a trop de numéros. Je ne connais que celui de mon homme, il est tout plein de zéros. Il a l'âme sauvage, son lit c'est notre plage. Je hais le ciel de Paris, il est noir, tout plein de suie. Et dire que les Alizés l'auraient tout de suite balayé, il viendrait tout azuré, le bois serait plein de palmiers sur lesquels iraient grimper tous les matins les rentiers. Et leurs chiens pourraient pisser tout autour des cocotiers. J'ai comme des bruits dans la tête, j'ai d'étranges distractions. Il paraît qu'on va me mettre dans un petit cabanon. Je souhaite qu'il soit sur pilotis. Je dis ça à cause des fourmis et des petites bêtes du pays qui veulent entrer dans ma tête. Les petites bêtes, c'est pas si bête. J'en ai tout plein mon plafond.
Alors, on vient d'entendre, ben vous l'avez reconnu, j'imagine, c'est une chanson qui a été, qui est inédite d'ailleurs. C'est donc Paris, tu me rends dingue, de Jeanne Moreau. Et c'était une chanson qui avait été composée par Serge Rezvani.
Alors, nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours le proton se rebiffe. Et ce soir, eh bien, c'est une conversation, on va dire, entre François Graner et moi-même, Jean-Manuel Trémont, pour présenter mon livre sur, qui s'appelle « Comprendre nos choix » avec la psychologie de la motivation de Paul Diehl. Et ça a été présenté par les éditions Chroniques Sociales. Alors, nous en étions à discuter de beaucoup de choses, et en particulier, François, à un moment, tu as utilisé un mot qui a été particulièrement mal utilisé souvent, et qui est le mot de valeur. Alors évidemment, nous allons, nous, utiliser le mot valeur dans un sens totalement différent du sens en particulier scandaleusement économique.
Alors, oui, quand dans toutes les situations de la vie de tous les jours où on doit prendre une décision, on a en permanence dans notre tête, quelquefois de façon inconsciente, plein d'arguments, plein de raisons d'aller dans telle ou telle direction. Et quelquefois ça tourne dans notre tête et on n'arrive pas à prendre une décision. Or, ce qui va nous décider, c'est s'il y a des choses qui sont plus importantes, ou des arguments ou des poids qui sont plus importants que d'autres, des facteurs à prendre en considération qui sont plus importants que d'autres. Et être plus important que d'autres, ça veut dire qu'on leur donne, on leur accorde plus de valeur aux autres.
Voilà et le sens quoi, du mot valeur.
Le mot valeur, dans ce cas-là, c'est le poids qu'on va donner à telle direction plutôt qu'à telle autre. Et donc, ce que Diehl propose, c'est que la valeur d'un désir, d'une imagination, d'un motif, c'est est-ce qu'il va être satisfaisant à long terme, en tenant compte de tout. Y compris en tenant compte de la réaction des autres, en tenant compte de l'environnement,
en tenant compte de son sens large. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose justement là-dessus.
Et je finis juste la phrase et je te laisse. Et donc, va être valorisé, valorisant quelque chose qui, à terme, va être satisfaisant pour nous, et ce qui est source, finalement, in fine, de frustration ou de ressentiment, ça, il vaut mieux lui accorder une valeur plus faible.
Alors justement, là-dessus, une chose extrêmement importante, extrêmement utile de cette théorie, là, nous avons tous les deux commencé par la présenter comme une théorie qui a mis en avant l'introspection, un acte éminemment individuel. Seulement, là où ça devient extrêmement intéressant, c'est justement là, quand François parle de ce qu'est la satisfaction que l'on peut espérer, puisque cette théorie dit « nous opérons tout le temps, toute la journée, des calculs de satisfaction », eh bien, la vraie satisfaction, elle n'est jamais une satisfaction purement égoïste. Pour une raison très simple, nous sommes des individus sociaux. Nous sommes des individus, mais nous sommes constamment des individus sociaux. Si nous n'incluons dans notre calcul de satisfaction que celle de nos purs désirs individuels, au bout du compte, nous irons dans le mur à tout niveau, au niveau social, au niveau émotionnel, au niveau politique, etc. Et donc, là aussi, ce qui est extrêmement intéressant et qui fait différer cette théorie de beaucoup d'autres théories psychologiques qui n'accordent pas assez de poids aux aspects sociaux, c'est que cette satisfaction doit toujours inclure dans cette pesée, alors c'est un autre mot qu'on utilise, soit calcul de satisfaction, soit pesée, eh bien, ça inclut toujours autrui. Et d'ailleurs, il faut bien que nous nous souvenions que nous ne sommes jamais qu'un être humain est toujours à la fois égaux et autrui. Nous avons le langage qui nous vient d'autrui, et nous sommes tous des individus sociaux. Il nous est presque impossible de survivre en autarcie individuelle, ou en tout cas c'est extrêmement difficile. Et en tout cas à l'époque moderne, eh bien, plus personne ne vit absolument tout seul. Et donc, c'est une théorie de l'équilibre, non seulement de l'équilibre interne, mais de l'équilibre entre personnes. Et là, est-ce qu'on pourrait revenir un instant sur ce que tu viens de décrire avant la pause musicale? Tu as parlé de ce que Diehl est-ce que maintenant j'appelle moi dans le livre le carré des estimes. Est-ce que tu pourrais revenir à nouveau sur ce carré des estimes ? Redécris-le s'il te plaît.
Alors, surestime de soi, sous-estime de soi, surestime des autres, sous-estime des autres. Dans tous les cas, c'est quand on ne juge pas soi-même ou les autres à leur juste valeur, quand on n'estime pas correctement. Donc, survaloriser quelqu'un, c'est le croire qu'il ou elle est mieux que ce qu'il est en réalité. Sous-valoriser quelqu'un, croire que cette personne est idiote ou méchante, ou, alors ce qu'elle n'est pas en réalité. De même, se surestimer ou se sous-estimer. Dans la vie courante, je vois très très souvent des gens que je considère moi comme de valeur égale, et l'une des deux se surestime, l'autre se sous-estime, et ça peut changer plusieurs fois au cours de la journée ou même au cours d'une heure. Donc c'est du fait surtout que c'est insatisfaisant de sur- ou de sous-estimer, on a souvent tendance à réagir, à corriger, mais à tomber dans un excès inverse. Et donc on se balade sur les côtés d'un peu de ce carré, au lieu d'essayer d'en chercher quelque chose d'un petit peu plus pondéré au centre, qui permet finalement plus de satisfaction. Et c'est le seul intérêt, hein, c'est de trouver une certaine satisfaction à la fois pour soi et pour les autres. Mais à la fois, c'est ce qui donne à la fois le côté pratique et le côté philosophique. C'est-à-dire que ça, c'est pratique parce que ça donne un sentiment d'équilibre et de sérénité qui est difficile à trouver par ailleurs. Sinon, si on est tout le temps bousculé entre des excès qui s'annihilent les uns les autres. Et en même temps, ça donne une vision un peu philosophique, parce que le mot à lâcher, c'est le mot moral. Parce qu'à partir du moment où on donne une valeur à ce qu'on fait, on donne une estimation, on donne une valeur à ce qu'on rencontre, eh bien, on en vient à avoir une vision philosophique, une vision a priori plutôt optimiste, une vision de ce qui peut... De ce qu'on peut être actif, de sur quoi on peut être actif. Et donc, voilà, on bascule insidieusement vers une vision philosophique. Et si je me souviens bien, c'est toi, Jean-Manuel, c'est ce qui t'avait intéressé en premier lieu là-dedans.
Alors, pour moi, effectivement, l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre, c'est que je me suis dit, voilà une théorie déjà extrêmement intéressante dans la vie personnelle, mais voilà enfin une théorie psychologique qui peut coller immédiatement à nos principes anarchistes et à ce que j'espère un jour pouvoir identifier comme une morale anarchiste. Alors entendons-nous bien, une morale, quand on dit morale, on a tendance à immédiatement réagir, à voir un index qui se balance, avec un sourcil qui se lève, « Monsieur, c'est immoral ce que vous faites ». Non, mais la morale c'est autre chose, la morale c'est tout simplement qu'est-ce qu'on fait entre nous, entre êtres humains, comment est-ce qu'on se comporte entre êtres humains. Et ça... c'est la question centrale de l'anarchisme. Comment est-ce que nous allons nous comporter entre êtres humains ? Or, il se trouve que cette théorie-là, justement, par exemple, dans ce carré des estimes, on l'appelle un carré. Pourquoi ? Parce que quand on en fait un graphique, eh ben, vous pouvez mettre en haut donc surestime et sous-estime, et puis en revanche, de gauche à droite, autrui et moi, ou à l'inverse, ça fait donc un carré bien utile. Eh bien, ce type d'outil qui est présent dans cette, il y en a d'autres, hein, dans cette psychologie de la motivation, ça nous permet d'avoir des outils à la fois à nouveau simples, clairs et justement pas de préchi-précha pour résoudre nos problèmes moraux. Nous avons des problèmes moraux tous les jours dans nos interventions constantes entre nous, dans nos discussions, dans la rue, dans nos actes, alors à plus long terme, que ce soit politique, économique, etc., dans nos relations familiales, bien entendu. Et cette pratique de l'introspection amène, dans le meilleur des cas, à la lucidité. Et on s'aperçoit que quand on se demande « mais pourquoi est-ce que la société ne fonctionne pas ?», on voit bien qu'elle ne fonctionne pas parce qu'il y a des classes sociales qui veulent agir pour dominer les autres classes sociales. Mais les classes sociales, elles sont bien composées aussi d'individus. Pourquoi est-ce que les individus ont tellement envie d'argent, de pouvoir, de domination, de prestige, etc. Et l'autre grand avantage de cette théorie, c'est qu'elle elle n'est pas une théorie totalitaire. Elle n'est pas une théorie qui dit « il n'existe que moi » comme théorie. C'est une théorie qui coexiste, qui collabore, qui coopère tout à fait bien avec les analyses politiques, avec les analyses sociales, avec les analyses économiques et avec les autres théorie psychologique. Et ça aussi,
et
c'est
même avec les neurosciences ou avec les...
Exactement, avec les neurosciences aussi. Et ça, c'est quand même très rare. Parce qu'à nouveau, très souvent, quand on lit des livres qui veulent expliquer tel ou tel aspect, que ce soit de la psychologie ou de la société, très souvent, les auteurs, pris, fascinés par l'idée géniale qu'ils ont eue, eh bien, veulent que qu'il n'y ait qu'une seule clé pour toutes les serrures. Cette théorie-là dit, attendez, regardez la clé que vous avez. Regardez la serrure que vous avez. Est-ce que vous êtes en train de mettre la bonne clé dans la bonne serrure? Elle ne dit pas, c'est moi qui ai toutes les clés ou c'est moi qui ai toutes les serrures. Elle se dit, attendez, regardez les clés, regardez les serrures et posez-vous la question, est-ce que je suis en train de mettre la bonne clé dans la bonne serrure? Si j'ai mis la bonne clé dans la bonne serrure, est-ce que je suis en train de tourner dans le bon sens? Est-ce que je suis en train de trop tourner, de pas tourner? Voilà la sagesse, la forme de sagesse qu'elle propose. Et ça, c'est éminemment moral. Et à nouveau, c'est éminemment moral parce que ça a constamment lieu dans nos relations avec autrui. Et c'est donc pour moi... Alors là, les diéliens, on va dire professionnels, ne veulent pas trop dire que c'est une théorie qui, selon moi, serait une excellente psychologie de l'anarchisme. Mais pour moi, c'est une psychologie qui serait une parfaite psychologie de l'anarchisme. Parce qu'elle permet justement, entre autres, de fonder une morale de l'anarchisme qui n'est pas une morale de l'impératif, du devoir, du « tu dois, c'est bien, c'est mal », mais c'est au contraire une morale de la réalité. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la réalité? Qu'est-ce que je fais avec autrui, contre autrui? Qu'est-ce que autrui fait avec moi, contre moi? Et comment est-ce que nous pouvons parvenir le plus possible, le plus d'entre nous possible, vers la meilleure satisfaction possible.
Alors, je dois dire que j'avais été très surpris, il y a très longtemps, de trouver à la librairie Anarchiste Publico un livre de Diehl, un livre sur l'éducation. J'ai été très surpris parce que moi donc, qui avais baigné dans Diehl, dans le milieu familial, pas du tout anard, j'aurais jamais imaginé qualifier Diehl d'anard, et lui-même ne s'intéressait pas à la politique particulièrement, ne serait sûrement pas qualifié comme ça. Il se trouve qu'il est libre de penser, au sens qu'il a reconstruit son système de pensée par lui-même, en se basant sur l'individu, et que sa construction de l'éducation est donc tout à fait compatible avec, effectivement, un fonctionnement anarchiste. Et en ce sens, ce qui donne une vision de la morale, c'est-à-dire une vision de la manière de se guider dans la vie qui n'est pas du tout religieuse, qui est complètement, qui n'a besoin ni de Dieu ni de maître. Et Diehl a beaucoup travaillé sur le surmoralisme et le sous-moralisme. Souvent, quand on parle de morale, on parle de choses moralisantes, en fait. C'est comme le Jiminy Cricket, la morale étouffante, l'aspect trop important donné à des préceptes rigides qui doivent guider notre vie. Ça, c'est le surmoralisme. Et à l'inverse, la réaction contre le surmoralisme est souvent de tomber dans l'excès inverse, qui est le sous-moralisme, c'est-à-dire l'absence complète de choix, de repères, de donner des valeurs à tel aspect plutôt qu'à tel autre.
Déjà, l'absence complète de respect de l'autre, de respect d'autrui, et le désir de parvenir le plus vite possible, avec le moins d'efforts possible, à des satisfactions les plus égoïstes et les plus simples possibles.
Voilà. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, chez Diehl, là encore, c'est qu'il montre comment nous-mêmes, on peut tomber dans les deux extrêmes, surmoralisme, sous-moralisme, alternativement, même quelquefois, même en même temps, mais que on ne corrige pas un excès par l'autre, encore une fois. Ce qu'il propose, c'est de mettre le curseur entre les deux. C'est-à-dire de trouver un système de valeurs basé sur la satisfaction à attendre, et non pas ni sur des préceptes illusoires, ni sur un déchaînement sans règles. Et donc, voilà, ça permet de donner une vision philosophique et morale qui n'a absolument pas besoin de religion, absolument pas besoin d'autorité constituée. Et en ce sens-là, elle peut servir pour une vision anarchiste.
Alors, il y a un mot que tu viens d'utiliser, que j'utilise beaucoup dans le livre et qui est né de nos discussions, et qui est la métaphore du curseur. Les religions, très souvent, c'est des doctrines du cliquet, de l'interrupteur. Oui, non, c'est bien, c'est mal, et il n'y a rien au milieu. Alors qu'en réalité, les comportements humains, les désirs humains, les calculs de satisfaction humains, c'est très souvent des choses qui sont sur des curseurs. Et puis c'est des curseurs qui changent tout le temps. À nouveau, nous changeons nos attitudes, nos évaluations, nos jugements d'autrui, parfois dans l'heure, parfois dans la minute, parfois dans la journée. Et c'est donc extrêmement utile de, dans ces moments d'introspection, de se souvenir, d'utiliser, pour comprendre ce que moi je fais, ce qu'autrui fait, d'utiliser la notion de curseur et non pas de cliquet. Et également, ce que tu viens de dire, François, et là aussi, c'est très important dans la morale qu'on peut tirer de cette théorie de la psychologie, c'est de ne pas mettre des étiquettes. Dans la morale religieuse, on est un saint ou on est un pécheur. On est catholique ou on est hérétique. Et point de milieu. Dans la morale qu'on peut tirer de cette psychologie, aujourd'hui, à ce moment, à 17h15, dans ma discussion avec José, je me comporte de telle manière. Oui, mais à 17h18, dans mon action avec Pierre, je me comporte encore différemment. Et ça, c'est extrêmement important pour poser, il me semble, une morale de l'anarchisme, c'est-à-dire une morale effectivement de l'équilibre, de l'adaptation, de l'adéquation avec ce qui nous entoure, que ce soit le monde physique, la nature, que ce soit le monde social, que ce soit notre monde intérieur psychologique. Et ça, c'est quelque chose auquel Diehl pense constamment. Pour lui, il faut qu'on puisse passer facilement, enfin pour lui, et puis surtout après pour moi, en tout cas l'interprétation que j'en donne, il est essentiel de pouvoir passer d'une échelle à une autre, d'un contexte à une autre. Et c'est une grande caractéristique de cette théorie qu'elle peut facilement, qu'elle nous permet de passer d'une échelle et d'un contexte à un autre.
God's kingdom. There was a rebellion in mankind, and the devil wanted to take over God's kingdom, and Jaja was wrought against the devil. Jaja was wrought,
he was wrought
against Satan. Thunder and earthquake and tidal wave and brimstone and fire and the lava, great fire, chase the devil away, chase the devil away now, chase the devil away. And it's Michael and Gabriel and Raphael and Uriel. Oh Lord, chase the devil away, chase the devil away.
Our sovereign souls, oh, of creation, spiritual warriors on the strand. We won't yield to your temptations, 'cause I and I are here to cast your spells away, to cast them away. Break down and cast them away.
Take over God's kingdom. There was a rebellion in man's heart, and the devil wanna take over God's kingdom. And Jaja was wrought against the devil. Jaja was wrought against Satan. Chase the devil away. Chasing all the devil away now.
devil to pray. Again, to confound and confuse us.
Alors là, je vais d'abord désannoncer. Eh bien, il s'agissait donc d'un CD de Ina de Yard. C'est tout un groupe de musiciens différents qui ont enregistré ce CD. Et c'était Rebellion in Heaven. Et c'est Cédric Mitton.
Nous sommes donc toujours sur Radio Libertaire 89.4. C'est la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. Ce soir, nous sommes dans le Proton sur Rebif et nous discutons de mon livre qui s'appelle « Comprendre nos choix avec la psychologie de la motivation » de Paul Diehl. Moi, je suis Jean-Manuel Trémont. Et l'invité ce soir est une personne qui a été très importante dans la rédaction de ce livre et qui s'appelle François Graner. Alors, à nouveau, cette théorie, pour moi, elle est fascinante parce qu'elle passe par des tas d'outils pratiques. On vient juste de parler de ce carré des estimes. François a également parlé de cette idée de surmoralisation ou de sous-moralisation. Et il y a un moment dans plusieurs des textes de Diehl, il y a quelque chose d'amusant. Diehl dit aux gens qui appliqueraient ces techniques, dit « Attention, méfiez-vous. Parce que si vous les appliquez, méfiez-vous que vous ne soyez pas trop fiers de les appliquer et que vous ne fassiez pas du surmoralisme et de la surestimation de soi en disant « Ah, moi, j'applique ces techniques-là, toi, tu ne le sais pas. » Alors, bien entendu, là-dessus, à nouveau, l'action avec autrui est constamment nécessaire et c'est donc à la fois une psychologie de l'introspection et c'est une psychologie de l'interaction avec autrui. Et pour cela, il faut effectivement essayer de comprendre ce que fait autrui à tel ou tel moment, si on peut éventuellement l'expliquer, ou parfois essayer de trouver des méthodes qui changent à chaque fois pour arriver à gérer la situation, les situations avec autrui. François, tu souhaitais embrayer sur plusieurs autres choses. Je t'écoute.
Le point de départ dont tu as parlé, qui était ton point d'entrée, toi, pour Diehl, et qui l'a été pour beaucoup de gens, c'est la question du symbolisme. Et en partie du livre de Diehl sur le symbolisme dans la mythologie grecque, mais il en a fait dans d'autres, y compris dans la religion judéo-chrétienne, hein, le symbolisme dans la Bible, et dans d'autres domaines aussi. C'est une théorie, le traitement des symboles, et Diehl s'est appuyé sur ses prédécesseurs, le traitement des symboles est très unificateur entre les rêves, les mythes et les symptômes. Mythes, on va dire, du symbolisme collectif, rêves, symbolisme individuel quand le cerveau et la partie consciente du cerveau est au repos, et symptômes, symbole quand notre fonctionnement est pathologique et donc que l'inconscient l'emporte sur le conscient. Alors, évidemment, dans tout ça, dans tous les symboles sont très, très multifonctionnels, multivariés, et ils ont leurs sources dans à la fois les événements de la vie quotidienne, le passé, dans l'imaginaire collectif, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses, mais derrière, parmi les fonctions des symboles, il y a des fonctions de représentation du fonctionnement psychique interne, et il y a des choses qu'on trouve en commun dans les rêves, dans les mythes et dans les symptômes, et en particulier dans les mythes, dans les principaux mythes, on trouve souvent du symbolisme ou qui reflète notre fonctionnement psychique. Finalement, le mythe a pu être, pour que ce soit les mythes judéo-chrétiens, les mythes gréco-romains et les mythes de beaucoup d'autres civilisations,
des civilisations celtes ou nordiques, des civilisations asiatiques amérindiennes, on a pu avoir un reflet du fonctionnement psychique qui est traduit dans des histoires qui sont accessibles, racontées par, d'une manière qui parle à notre inconscient parce qu'elle utilise le langage des symboles.
Alors, en d'autres termes, par exemple, à nouveau, tant dans son livre « Symbolisme de la mythologie grecque » ou dans un livre après « Symbolisme de la Bible », Diehl, alors moi, pour, moi, vous savez que j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Comment fabriquer une religion », et ça m'a beaucoup été utile parce que c'était encore une autre manière de comprendre pourquoi la religion colle à l'esprit bon de Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en défaire, la preuve en étant dans les mots que je viens d'utiliser. Et donc, ce que démontre Diehl dans ses livres, soit sur la mythologie grecque, soit sur la Bible, c'est que, entre autres, les entités divines, donc toutes ces entités fantasmatiques, irréelles, pourquoi est-ce qu'on y croit tellement ? Alors, parmi tant de raisons de croire dans la réalité de ces entités illusoires, eh bien, c'est qu'elles incarnent nos différentes pulsions, désirs, contradictions, les questions que nous nous posons et les mythes sont des manières de raconter l'interaction entre ces différentes pulsions dans notre psyché personnelle. Alors là-dessus, il a par exemple, il a donné des analyses très simples mais très utiles, par exemple sur le mythe de Midas, sur le mythe de Tantale, qui permettent de voir ceci aussi également sur Hercule. Alors Hercule, par exemple, c'est quelqu'un de tout à fait intéressant du point de vue à la fois mythologique et psychologique, parce que Hercule, il est mi-homme, mi-dieu. Et donc, en fait, c'est bien cet être humain bizarre qui, à la fois, est bien obligé d'être dans la réalité, mi-homme, il est obligé de se débrouiller de la réalité, et puis mi-dieu, parce qu'il est en plein monde illusoire aussi. Nous sommes à la fois dans le monde de nos perceptions et dans le monde de nos fantasmes. Et ça correspond dans le mythe d'Hercule à ce qu'il fait en tant qu'homme et à ce qu'il fait en tant que Dieu. Et puis on sait que le pauvre Hercule, il est régulièrement rendu fou par Héra, l'épouse de Zeus, parce qu'elle est jalouse du fait qu'il est né, qu'il est un enfant illégitime de Zeus. Et donc le pauvre Hercule, eh bien, le mythe va le mettre régulièrement dans des situations extrêmement difficiles. Et les choix d'Hercule, eh bien, ça nous rappelle à nous, êtres humains, les choix que nous devons faire constamment devant ce que nous avons fait, que nous estimons n'être pas si bien, ce que nous voudrions faire, que nous estimons serait si bien, et puis ce que nous envoie dans la figure le monde réel, le monde physique, le monde social. Et Hercule est donc un excellent exemple du fait que les mythes sont aussi tout simplement des miroirs et des microscopes de ce qui nous arrive dans notre vie émotionnelle et psychologique. Alors, les mythes grecs, et à nouveau, les grandes religions, les petites religions, toutes ces illusions sont très importantes. Et puis, il y a là-dessus également un autre domaine où cette psychologie est très utile, eh bien, c'est pour comprendre l'art. Alors, en particulier, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que des statues comme, par exemple, la statue du David de Michel-Ange, pourquoi est-ce qu'elle est tellement fascinante ? Alors, bien entendu, le David, il est absolument merveilleusement beau, mais il n'y a pas que ça. Il y a justement dans la statue du David, il y a ce que c'est, un objet en marbre, il y a ce que ça veut représenter, et bien le jeune juif qui va défendre le peuple juif de l'agression par un énorme géant appelé Goliath, et lui, il n'est qu'un petit adolescent, et bien, fabuleux, il va tuer le gros méchant Goliath. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mythe ? Eh bien, il y a justement la victoire de l'individu contre telle ou telle peur, soit réelle, soit illusoire, mais à laquelle il va faire face et qu'il va vaincre en utilisant son courage. Et donc le David, c'est un miroir du courage qu'on peut avoir, illusoire ou non. De même, la Joconde, qu'est-ce que c'est ? Alors la Joconde, un des charmes de la Joconde, c'est qu'on a un mal fou à savoir ce qu'elle est. Mais il y a une chose qui est évidente, la Joconde, elle est là, elle est tranquille. Et là aussi, il y a quelque chose qu'on cherche, nous tous les êtres humains, On cherche la sérénité. Et l'un des fonds du charme de la Joconde, dont on peut se demander quand même, bon Dieu de Dieu, à nouveau, pardon pour ce mot, et pourquoi est-ce que ce portrait si simple est tellement célèbre ? C'est aussi parce qu'il est une image de la sérénité que l'on souhaite obtenir après avoir, par exemple, effectué ces milliers de calculs de satisfaction auxquels nous nous livrons tous les jours. Et ça, c'est un des aspects les plus plaisants des livres de Diehl. C'est tout d'un coup de comprendre tout un tas de choses que, sans ça, on a un peu de mal à comprendre. Je t'écoute, François.
Pour en revenir à quelque chose de très pratique sur les calculs de satisfaction quotidien dont tu parles, une des choses avec lesquelles on se débat quelquefois, c'est comment arriver à faire tout ce que je dois faire, tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai à faire, comment je me débats avec les différentes contraintes que j'ai autour de moi. Et je trouve que Diehl arrive à bien poser les choses en disant qu'en fait, voilà, on a des contraintes. Il y a des contraintes de temps et d'espace. On est à un endroit donné, à un moment donné. On a 24 heures par jour, tous, qu'on soit riche ou pauvre. Et la question, c'est vraiment qu'est-ce que je veux faire, moi, de mon temps? Qu'est-ce que je veux faire maintenant, aujourd'hui? C'est vraiment de reprendre les choses par l'autre bout. Et de ce point de vue-là, c'est reprendre sa liberté face aux contraintes extérieures. Et c'est reprendre la question différemment. Et donc, ça veut dire renoncer, nécessairement. Renoncer à des choses. Encore une fois, hiérarchiser, donner une valeur, comparer les choses entre elles. Et ça, beaucoup de gens me disent « Oui, mais bon, quand tu racontes ça, moi je fais ça tous les jours, j'ai pas besoin de Diehl pour ça. » Très bien, si on fait du Diehl sans le savoir, c'est parfait. C'est, je dirais tant mieux, c'est plutôt, ça donne confiance dans Diehl, on va dire.
Exactement.
Si les gens qui vont bien, c'est ceux qui font du Diehl sans le savoir, et si les gens qui vont pas bien, quand ils font du Diehl, ils vont mieux, c'est ça qui peut donner confiance. On ne parle pas de véracité, on ne parle pas de vérité. Pour moi, dans mon langage, la notion de vérité, c'est une notion religieuse, c'est pas une notion que je vais utiliser, en tout cas pas pour une théorie psychologique. Mais la question, c'est est-ce que j'ai confiance en elle, est-ce qu'elle est utile pour moi, est-ce qu'elle est opérationnelle pour moi, est-ce que si je fais un peu j'en fais un petit peu toutes les semaines, une fois par semaine, est-ce que ça va me rendre plus agréable pour les autres, plus mieux dans ma peau, plus optimiste, voilà, c'est ça que je vois, c'est ça qui va me donner confiance. Et donc, en ce sens-là, tant mieux si beaucoup de gens font du Diehl sans le savoir. C'est probable que depuis la nuit des temps, depuis l'humanité, beaucoup de gens l'ont fait et que les religions, pour beaucoup, dans l'aspect positif des religions, ça a été un moyen pour les gens de se donner un système de valeurs qui, pour certains, était satisfaisant. Il se trouve qu'on est dans une société où les religions ont sclérosé beaucoup de choses, où les systèmes de valeurs ont été sclérosés ou, au contraire, ont été rejetés et que, effectivement, pour les gens qui sont désorientés, se trouver un guide un petit peu formalisé, de point de vue théorique, eh bien, à mon avis, pour moi, c'est quelque chose qui est pas mal dans la vie de tous les jours.
Magnifique. Voilà. Et en particulier, donc, un guide au meilleur sens du terme, qui n'est pas quelqu'un ou qui est une théorie supérieure, mais qui, au contraire, qui reste constamment un outil à notre disposition. Alors, moi, il y a une autre métaphore que je trouve extrêmement utile. Donc, on a celle du carré des estimes, on a celle du curseur. Et pour moi, cette théorie, c'est le couteau suisse. Le couteau suisse, le petit instrument relativement léger, pas encombrant, mais extraordinairement utile et versatile. Et c'est ça, c'est l'une des choses qui me plaît avec cette théorie, c'est que, on ne peut pas en faire un instrument totalitaire. On ne peut pas en faire quelque chose qui nous surplombe, qui nous contrôle. Au contraire, c'est quelque chose qui reste constamment dans nos mains et sous notre responsabilité. Et nous allons maintenant écouter encore... Tom, 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 tom...
Traverse des idéaux forme et c'est mortel. La vie mortelle. Mortelle.
Alors c'était exactement, je vais vous dire, c'était un petit peu pour taquiner Jean-Manuel en fait. C'est, ça s'appelle « Quel est ce cirque dans ma tête ?» de Da Silva et c'est extrait d'une vie imparfaite.
Alors nous sommes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'était le Proton se rebiffe, nous parlions de comprendre nos choix avec la psychologie de la motivation de Paul Diehl qui est un de mes bouquins. Je suis Jean-Manuel Trémont, c'est paru chez Chronique sociale. Et pour répondre à ton « Quel est ce cirque dans ma tête ?», tu connais également la réflexion célèbre d'un clown qui en avait marre d'entendre justement utiliser le mot « cirque » pour le comportement des politiciens qui disaient « Mais en fait, vous savez, un cirque, c'est drôlement bien organisé. Et si la vie politique était aussi bien organisée qu'un cirque, eh ben, ça serait beaucoup mieux. »
On pourrait faire la même chose quand on parle des cochons, puisque les cochons, c'est voilà. Les flics, c'est tout ce qui est mauvais, etc. Or, franchement, les cochons, c'est des êtres très sympas, des animaux très sympas, très intelligents.
Très intelligents.
Lulu me dirait, ils sont très proches de l'homme, d'ailleurs. Et donc, on leur fait porter le chapeau, vraiment, sur pas mal de choses.
Non, pas les flics, les patrons. Les cochons.
Eh bien, non, c'est pas ça. Les flics, c'est comme les flics, comme Darmanin.
Voilà, vous voyez les débats entre... Qui est un vrai cochon. Bon, en tout cas, maintenant, donc, nous vous remercions. Nous vous retrouverons, bien entendu, tous les troisièmes lundis du mois à 21h pour le Proton sur Obif et tous les premiers lundis du mois pour les Mus s'amusent. Mais auparavant, nous allons maintenant écouter l'info du Proton qui nous est donnée par Lulu.
Les infos du Proton.
Une loi d'honneur décrochée par Louis Alliot, premier vice-président du FN et maire de Perpignan, qui joue les naïfs dans le journal du dimanche, interrogé sur les liens financiers et politiques de Marine Le Pen avec Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, deux vedettes de l'ex-groupe Union Défense Le Gude, célèbre pour ses bastons et ses slogans néo-fascisants, Alliot pousse cri du cœur. S'ils sont de vrais amis, ils devraient s'effacer d'eux-mêmes. Sinon, ce ne sont pas des vrais amis. Facho mais discretos. Une autre loi d'honneur du Canard enchaîné décernée à la députée La France Insoumise, Clémentine Autain, réagissant à l'annonce présidentielle de 2 milliards de baisses d'impôts, elle a lancé. La réalité, c'est qu'on est à bout de souffle de 40 ans de politique néolibérale. L'Insoumise est sans doute passée à côté des dernières statistiques européennes. En 2021, la France était championne de la zone euro en matière de prélèvements obligatoires, ceci représentant 47% du PIB, soit un niveau supérieur de 7 points à la moyenne de la zone euro. À moins de considérer que plus les contribuables paient d'impôts, plus leur gouvernement applique une politique néolibérale. Après les océans transformés en poubelles autour de l'espace, dans le Parisien, il est déclaré satellite abandonné ou en panne, fragment d'explosion ou de collision, étage de lanceur de fusée, ustensile perdu lors des missions spatiales. On compte environ 30 000 objets spatiaux assez imposants pour être recensés. Les débris plus petits se comptent par centaines de milliers, voire par dizaines de millions. Encore quelques efforts et la Terre aura ses anneaux comme Saturne.
Dans l'espace, François, tu as peut-être une information plus précise.
Ça dépend de la taille.
Ça dépend de la taille. Mais les petits, je crois qu'on en est à 138 millions minimum.
Un mur du son du Canard Enchaîné franchi ventre à terre par le magazine Le Point. Dans sa torride enquête, pourquoi les jeunes ne font plus l'amour ? De laquelle émerge cette statistique troublante. Les personnes se déclarant homo ou bisexuelles se retrouvent en égale proportion. 17% chez les électeurs de Jean-Marie Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon et ceux de Valérie Pécresse. Un résultat qui préfigure de nouvelles alliances au sommet, avec échange de 0,6. Des millions de téléspectateurs ont pu assister à l'apparition d'une silhouette ressemblant à la mort, vêtue d'une cape et portant une faux, durant la cérémonie du couronnement de Charles III, dans des images captées par la BBC. Mauvais présage ? Pas d'inquiétude. Selon Newsweek, l'Abbaye de Westminster a identifié la silhouette comme étant celle d'un bedeau, un batial qui participe aux services religieux, mais qui n'est pas un membre du clergé. Il faut savoir séparer le vrai du faux. Le lac Léman est un sujet d'inquiétude pour les chercheurs. S'élevant de 1971 à 11 degrés en moyenne, la température du Léman a grimpé à presque 14 degrés en 2022, avec pour conséquence la fin de l'oxygénation des écosystèmes, nécessaire au développement du phytoplancton et donc à l'alimentation des poissons. On ne pourra plus dire sur les rives du Léman, il n'y a pas le feu au lac, c'est presque le cas.
Je crois que c'est arrivé sur certains lacs des feux dus à la pollution. Mmh.
Plusieurs États états-uniens, dont l'Arkansas, l'Ohio, l'Iowa et le New Jersey, autorisent désormais le travail des enfants. Des inspecteurs ont épinglé 835 entreprises employant plus de 3800 mineurs, tandis que les enquêtes journalistiques ont révélé des abus choquants, comme ces quelques 300 enfants, certains âgés de 10 ans, recrutés chez McDonald's et dans le Kentucky. Et en plus, ils étaient mal nourris.
Là, je crois qu'il faut quand même ajouter une chose, c'est qu'en ce qui concerne le travail aux États-Unis, il y a tous les migrants qui, mineurs également, travaillent 16 heures par jour, 6 jours par semaine, et ils sont parqués dans des endroits et ils n'ont évidemment que le droit de se taire.
Toujours aux États-Unis, note le Figaro, département de l'énergie, le DOE, a provoqué un tollé en édictant de nouveaux standards de communication d'eau, de consommation d'eau, pardon, pour les appareils électroménagers. Objectif, économiser 625 millions de dollars par an. L'administration Biden veut gérer notre lave-vaisselle. C'est insurgé très sérieusement une sénatrice trumpiste. Pas écolo, du tout, la dame. La société Neuralink, créée par Elon Musk, a été autorisée à tester son implant cérébral sur des humains. S'il s'adresse dans un premier temps à des personnes handicapées pour leur permettre de contrôler un ordinateur par la pensée et soigner différentes atteintes neurologiques, Musk souhaiterait à terme le proposer aux sujets sains pour améliorer leur connexion au monde numérique. Et leur proposant un abonnement à Twitter.
Alors, puisqu'on parle d'Elon Musk, parce qu'il était à Paris, là, il a fait un grand discours devant 2000 personnes. Il a été invité à l'Élysée par Macron. On a déroulé le tapis rouge parce qu'il voudrait certainement avoir du blé du côté de Macron. Et alors, les projets, c'est pas seulement les projets que, dont Lulu a parlé, c'est qu'en fait, avec sa, son entreprise SpaceX, il a l'intention, alors écoutez bien, son récit, c'est des envoyer des milliers de fusées vers Mars pour y créer, entre guillemets, une colonie humaine autonome, sans doute libertaire, je pense, et sauver l'humanité, hein, parce que, évidemment, c'est quand même important, et n'oublions pas qu'il est en plein dans le mythe libertarien. Voilà.
Gens et c'est un cauchemar qui s'annonce. Ce type est l'un des plus dangereux sur la planète à l'heure actuelle.
Oui, mais c'est, celui qui a le plus de pognon.
Exactement.
Et qu'on laisse faire complètement, y compris sa petite voiture là, électrique, voilà. qui va Alors il a dit que cette voiture c'était formidable parce qu'elle allait tourner autour de la Terre pendant des millions d'années.
Ah, oui,
et puis évidemment, c'est pour ça qu'il a rencontré Macron, peut-être pour avoir un petit quelque chose, un petit, parce que ces gens-là, ils ont beaucoup de blé, mais ils vivent avec les subventions. Donc là, bah, c'est super parce que ça va. Et puis il va rencontrer les futurs extraterrestres. Voilà. Alors il n'a pas dit si ces grandes migrations vers Mars allaient être simplement pour certaines personnes ou pas. Ça, on n'a pas. À mon avis.
Je te sens un petit peu soupçonneuse.
Oui, je suis très soupçonneuse.
Je te sens très soupçonneuse.
Absolument très soupçonneuse. Ce type me débecte, c'est pas possible. Et
non, à nouveau, j'insiste, je pense qu'il est probablement à l'heure actuelle il est l'un des êtres humains les plus dangereux de la planète.
Oui.
Peut-être le plus dangereux.
Mais Jean-Manuel, la question qu'on peut se poser, c'est comment peut-il rassembler 2000 personnes qui sont là en train de le regarder comme le gourou du coin et qui dit ça y est, il va nous amener vers un monde.
Et aux États-Unis, c'est pas 2000 personnes, c'est des millions.
Ah ben là, mais attends, il a tous les médias. Hein. Ceci dit, on peut regarder aussi, on peut balayer devant notre porte. Hein.
Pour ces personnes-là, l'avenir, c'est 1984.
Le meilleur des mondes et soleil vert, en fin de compte.
Ah non, ça y est, on y est déjà là.
Ça y est,
c'est fait, parce que les petites fermes qui sont en train d'implanter aux États-Unis, ça y est, c'est fait.
Ouais.
Voilà. Donc,
c'est grave.
Donc c'était quand même le proton se rebiffe, dont oui. On va peut-être changer le titre bientôt, le proton décapite Elon Musk, enfin bon, bref.
Why
Lisons
not. Why not. Et bon. Pour finir, on va finir par une chanson, mais je voulais simplement vous dire que le gouvernement d'Israël avait interdit donc des jeunes danseurs de Dabke de venir faire une tournée en France. Ils devaient donc venir depuis jeudi dernier, ça ne s'est pas fait, ils sont quand même arrivés hier, ils vont continuer à faire donc une partie de la tournée et ils vont terminer à Paris le 3 juillet, mais on en reparlera évidemment dans les Chroniques Rebelles. Et c'est important parce que vraiment en être au point d'interdire des gamins qui dansent le Dabke, il faut vraiment être tordu, franchement. Voilà, et le film est très important, il sortira le 4 novembre prochain, mais il est en avant-première un peu partout. Ça s'appelle Yalla Gaza. Voilà. Eh bien, très très bonne semaine, je vous mets un petit peu de musique.
Je suis pas sûr qu'on se passera un jour du ciel, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce qu'ils disent soit essentiel. Et une chose est sûre, c'est qu'ils font pour l'instant audience. Et là, ma belle, ce qui te fait mal au ventre, c'est ton intelligence. Et je ne suis pas sûr que ce soit si évident, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que la fin est proche à présent. Et je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant. Eux, là, partout, tout le temps. Et Et je ne suis pas sûr qu'on y courra tous acharnés. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr que de leur monde on puisse faire plus désincarnés. Et une chose est sûre, c'est qu'on se fatigue de tout ça. Et là, ma belle, ce qui te fait de l'eczéma, c'est qu'on ne te fout pas la paix avec ça.
C'est ça, j'attendais ce truc de Saint Graal, là, et puis je claque, je refonds.
Et je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûr qu'on écrira plus de lettres de désertion au président. Je ne suis pas sûr que jamais ne vous détrôneront nos enfants. Et je ne suis pas sûr même qu'ils ne vous arracheront pas les dents. On ne maîtrise plus rien, tout part à volo dans l'éducation. Et je ne suis pas sûr que tous les lycéens ne vont pas se venger. Je ne suis pas sûr de ce qu'invente la patience d'un prisonnier. Et je ne suis pas sûr même qu'aucune masse n'ira se loger dans vos 3-4 crânes qui de l'espèce humaine se revendiquent d'être le reflet. Mais si la peur vous vient, arrêtez-vous dès maintenant, car vous n'avez aucune idée de ce qui se trame sous vos pieds, sous vos pieds, sous vos pieds, sous vos pieds, sous vos pieds. Sous vos pieds. Sous vos pieds. Sous vos pieds.
Les espèces. Vos conseils généraux votent 4000 francs de crédit pour la race bretonne pinoire. Et vos sociétés canines, 3000 francs pour l'épagneul breton. Mais voterez-vous jamais un liard pour l'élève et l'entretien de la conscience et de l'expression bretonne? Imbécile, qui vous acharnez à détruire des races d'hommes et des langues humaines, ignorez-vous donc que la beauté est nombre et non votre chiffre 1 planté dans le ventre d'un zéro comme un poteau frontière dans une mer de sang.
Les cortèges, Et Corten, a d'abord en faux cul en plus, mais non. Il suffit d'être vêtu d'une chemise. Et puis des chemises, en faux cul non plus. Qu'il plaçon des notaires, Sabri. Des notaires. Ah ben non, en faux cul alors. Comme des vrais croque-morts, on les habite tout pareil. Et puis des croque-morts, en faux plus, mais non. Chacun, il s'enterrera soi-même. Mais oui, des enterrements, non, n'en faut plus non plus. Faut plus rien, plus de terre, plus de système, plus d'hommes, plus de femmes, plus d'auvergnats, en faut plus. Et il faut qu'il n'y ait plus des socialistes. Et quand le démolissage y sera complet, eh bien nous, tous les braves anarchistes, on rétablira ce qu'il y avait.
J'y croyais pas, enfin j'y croyais plus. Je ne voyais pas plus loin que le bout de ma rue. Et puis là, devant moi, t'es enfin apparu avec tes yeux pleins de joie et ton joli petit cul. Je fais table rase du passé. Pourtant je ne veux rien oublier. Mais tant de rêves se révèlent dans ma vie depuis que nos regards se sont compris. Qu'il a fallu des semaines et des mois pour l'ardente entrevue entre toi et moi. Mais dès la première fois, nos étoiles s'associent, car l'amour est bien là, on peut lui dire merci. Je fais table rase du passé. Pourtant, je ne veux rien oublier. Mais tant de rêves se révèlent dans ma vie depuis que nos regards se sont compris. Des Halles jusqu'à Belleville et même bien au-delà. La fille de la mer et le garçon du lac reçoivent la lumière, celle des feux du zodiaque. Je fais table rase du passé. Pourtant, je ne veux rien oublier. Mais tant de rêves se révèlent dans ma vie depuis que nos regards se sont compris. Depuis que nos regards se sont compris. Depuis que nos regards se sont compris.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. L'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée, que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée rêve des chers instants qui la délasseront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête, toute sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête et que je dorme un peu, puisque vous reposez, que reposez.
Mon voisin est milliardaire, tralon la long l'air, ça me fait une belle jambe à moi, tralon la long là. Les milliardaires en France suisse, tralon la long lisse, normal il est zurichois, ouais pis quoi pis quoi. Mon voisin a des usines, des employés qui turbinent, des lingots, un château, c'est de la sueur et du boulot. Comment qu'il a gagné ça? Il dit que ça me regarde pas. Entourloupe et poudre aux yeux, mettez-moi encore une couche. Vos combines magiques c'est louche, vos magouilles c'est pas ce que je veux. Entourloupe et poudre aux yeux, mettez-moi encore une couche. Vos combines magiques c'est louche, vos magouilles c'est pas ce que je veux. Mon voisin est démocrate, ça m'éclate la rate. Il se présente aux élections avec tout son pognon. Comme il est assez gonflé, tralon la l'enflé. Il me dit votez pour moi, non mais ça va pas. Avec son sourire de faux cul, il dit je t'aiderai quand je serai élu. Mon programme c'est partager liberté, santé, prospérité. Lors maintenant ce qu'on du blé, s'étendre avec les fauchés. Entourloupe et poudre aux yeux, mettez-moi encore une couche. Vos combines magiques c'est louche, vos magouilles c'est pas ce que je veux. Entourloupe et poudre aux yeux, mettez-moi encore une couche. Vos combines magiques c'est louche, vos magouilles c'est pas ce que je veux. Mon voisin est patriote, vive le bâton et la carotte. Il y en a point comme nous, troulant la itou. Comme il aime pas les étrangers, ces gens-là c'est des dangers. Il fait acheter à l'étranger des avions puis des fusées, des trucs qui servent à rien qu'à faire gagner ses copains, mais qui finiront sur le blaire. Bien sûr des traits de misère, pas jamais un milliardaire, ça va mourir à la guerre. Entourloupe et poudre aux yeux, mettez-moi encore une couche. Vos combines magiques c'est louche, vos magouilles c'est pas ce que je veux. Entourloupe et poudre aux yeux, mettez-moi encore une couche. Vos combines magiques c'est louche, vos magouilles c'est pas ce que je veux. Mon voisin est respecté, le contraire m'étonnerait. Par les blaireaux, les laits de bœufs, y en a pas qu'un peu. Lait pour fermer les frontières, pour la race blanche et pour faire taire les femmes, les jeunes et les chômeurs, ce qui l'empêcherait de faire son beurre. Propre dans les hiérarchies, nous prépare un beau pays. Boucle quadrillé, yodeleur et gros musclé, quelque chose comme sa propriété. Faudrait-il pas se réveiller? Entourloupe et poudre aux yeux, mettez-moi encore une couche. Vos combines magiques c'est louche, vos magouilles c'est pas ce que je veux. Entourloupe et poudre aux yeux, mettez-moi encore une couche. Vos combines magiques c'est louche, vos magouilles c'est pas ce que je veux.
Le temps, je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter.